Donc la question de Binyamin. Ce shiur dédié à l'élévation de l'âme de David ben Rachel Zichrono Livracha. Alors ta question est, d'après quel critère Hachem décide
de, bah, pourquoi il a choisi Moshe, pourquoi il a choisi de se dévoiler à Moshe Rabbeinu, à Abraham,
pourquoi il a choisi Moshe Rabbeinu pour dévoiler à lui, pourquoi Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est chaque personne, chaque grande figure du peuple juif, pourquoi elle et pas un autre, pourquoi elle et pas moi, sous-entendu. C'est très simple, nous sommes tous issus de l'âme du premier homme. Tant de même que nous avons une âme, même dans un corps, dans lequel il y a différentes parties, la tête, les membres, les parties extérieures, les parties intérieures, nous sommes faits à l'image d'Hachem. Hachem n'a pas d'image. Quand on dit qu'on est fait à l'image d'Hachem, ça veut dire que Hachem utilise des voies de conduite pour agir dans le monde, et ces voies de conduite sont construite, enfin plutôt le contraire, l'homme est construit en fonction de ses voies de conduite. Donc effectivement, il y a dans les mondes supérieurs une image d'être humain. C'est pas une image comme on s'imagine, mais il y a une hiérarchie, on va dire comme ça. Il y a une hiérarchie, il y a une gauche et une droite. Quand il y a une gauche et une droite, ce n'est pas un côté gauche et un côté droit, parce qu'on parle de monde supérieur, on parle de choses qui sont spirituelles, il n'y a pas gauche et droite dans le spirituel. Gauche signifie vers la rigueur, la justice, droite signifie vers la bienveillance, la miséricorde. Et il y a une construction extrêmement complexe de tous ces mondes supérieurs qui sont l'intermédiaire entre Hachem et nous. L'homme, notre âme, elle est faite aussi donc à cette image. On a un corps, le corps est fait à l'image de l'âme, de notre âme. Et l'âme, elle est faite à l'image du monde supérieur. De même que dans le corps, on a une hiérarchie, on a différents endroits. De même, chaque âme faisant partie de l'âme du premier homme provient d'une autre partie de l'âme. Comme je dis, l'âme, elle est construite, il y a une hiérarchie, il y a un intérieur, un extérieur de l'âme du premier homme. En fonction de où une personne provient, elle aura certains dons, certaines facultés, certains tikkunim à faire que d'autres n'auront pas à faire. En cela, chacun est différent, et tout le monde est nécessaire. Parce que ce que fait un autre ne pourra pas le faire. Ça exclut tout le problème de jalousie. Parce que si je comprends que moi je suis l'œil, je ne vais pas être jaloux de l'oreille. Mais pourquoi lui il a une oreille musicale, moi pas du tout. Moi j'ai un œil de lynx, d'accord. Lui il est à moitié aveugle, d'accord. Un il est dans les arts plastiques, l'autre est dans les arts musicaux. Il ne faut pas être jaloux, chacun est d'où il provient. C'est un exemple que je donne. Pardon ?
Lui c'est le cerveau et moi je suis
le talon. Un c'est le petit bout du pouce, de l'orteil, d'accord. Et un, c'est l'endroit des tefillin. Il faut être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. On ne peut pas être jaloux. Parce qu'on est le même être, on est un. Et jamais le talon, il se dit, j'aurais voulu être le tefillin. Le tefillin va lui dire, écoute, moi je ne peux pas être talon. Au niveau de la jalousie, c'est une chose un peu profonde, essayer de l'expliquer. Si toutes les âmes, au début, sont de même niveau, et Hachem va donner maintenant un rôle à chacun. Toi, tu seras les tefillin, l'endroit des tefillin. Toi, tu seras le talon. Toi, tu seras l'anus. Les deux derniers peuvent dire pourquoi lui et pas moi. L'erreur classique, Caïn et Abel, pourquoi lui et pas moi. C'est une bonne question. Que nous, on était tous à égalité au début. Pourquoi lui et pas moi? C'est pas juste. Or, Hachem, il est juste. Du moment qu'il y a trois âmes qui sont à égalité, et de façon injuste, Hachem attribue un rôle sympa à une et un rôle non sympa à l'autre, c'est effectivement injuste. Mais, si on comprend que c'est pas du tout comme ça, qu'à la base tout le monde est égalité. C'est faux. Hachem a créé un corps. Et quand il a créé ce corps, il a créé un talon, il a créé un anus, il a créé une paire de tefilines, un endroit où on met les tefilines. Quand tu es créé endroit où on met les tefilines, ou quand tu es créé talon, vu que tu es créé talon, tu n'es pas jaloux de celui qui met de la place des tefilines. Nous sommes créés en tant que nous sommes nous. Et je n'ai pas à dire j'aurais voulu être, parce que ce n'est pas moi là-bas, et je n'avais pas une pensée, une avamina, comme on dit en français, une avamina, une présomption d'arriver là-bas. Parce qu'on est créé différemment. Dès lors, ça crée tout le problème de jalousie, c'est un peu profond, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui.
Mais j'ai entendu que les animaux ils sont coincés dans leur programme. Que nous, justement, on a la possibilité de sortir et c'est déjà logique. Quelque part, elle peut même être positive. Si on dit, voilà, moi j'ai été créé dans le talon, c'est ça que je n'ai, mais j'ai une possibilité de sortir de ce que je suis. Et la jalousie peut même m'amener à grandir.
Ok, c'est ce que Chazal dit, Kinat Sofrim Tabe Chokma. La jalousie qu'il y a entre les Sofrim, entre les Tabe Chachamim, elle agrandit la sagesse. C'est pour ça que c'est bien d'étudier en Chavruta. Avec Chavruta, tu vas avoir raison de toute façon. Donc, tu te concentres plus, tu as une pulsion de guerre, de bagarre avec l'autre pour gagner, et comme ça, on arrive à mieux comprendre la Sugya. Seul, c'est beaucoup plus dur. La Gemara, elle maudit ceux qui étudient seul.
On peut sortir de l'état de talon et se dire
que je vais... Alors, je vais y arriver un peu plus tard. Tu me reprends ta question quand je vais d'abord expliquer qui nous sommes, d'où on vient. D'accord ? Après, comment on fait pour sortir de là-bas si on peut sortir ? Mais pour répondre à la question au niveau de la jalousie, on pourra sortir pour s'améliorer dans notre rail à nous qui peut amener à très très haut. Mais on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux. Parce que chacun, il est d'un autre endroit et chacun, il a son job à faire. Misati Charem, il dit, c'est comme un palais où chaque serviteur, il a son rôle. T'as le cuistot, t'as le garde, t'as celui qui, je sais pas moi, qui balaye. Et chacun font pour que le palais puisse être un palais resplendissant et somptueux. De même, nous sommes Am Israël. Chacun a un rôle pour que Am Israël puisse être. Maintenant. Un moment. Attends, je vais finir l'explication après vous poser la question. Maintenant. En fonction de l'endroit où vient l'âme, elle aura un rôle différent. Il y aura aussi des grandes âmes, des moyennes âmes et des petites âmes. Plus une âme est grande, plus elle a un grand potentiel. Plus on va exiger d'elle aussi. Plus une âme est petite, son potentiel est petit, mais on exige d'elle beaucoup moins. Donc des fois, tu vois quelqu'un qui réussit bien, et en fait, tu es jaloux de lui, mais tu as tort, parce que toi, par rapport à ton potentiel, tu es beaucoup mieux que lui. Lui a un potentiel 100, toi, tu as un potentiel 10. Lui, il est à 15, toi, tu es à 8. T'es jaloux, parce que lui il est à 15, toi t'es à 8. Mais mon cher ami, toi t'es 8 sur 10, lui il est 15 sur 100. Et Hachem regarde maintenant, pas ce que t'as fait, regarde ce que tu as à faire, et en fonction de ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as fait? La jalousie, c'est une bêtise sans nom. À complètement éradiquer, oublier, c'est complètement faux. Chacun a droit à ce qu'il a droit. T'as reçu ce que t'as besoin pour faire ton job, et en rien ça touche les autres, et en rien les autres te touchent. C'est marqué que Hachem a vu qu'il y aurait peu de tzadikim durant l'histoire, et les a éparpillés durant toutes les générations. Hachem fait en sorte que les grandes âmes, qui ont un grand potentiel, naissent à des générations différentes pour qu'il y ait toujours des bergers du peuple d'Israël. Les grands d'Israël qui sont nos bergers. Maintenant, il y aura aussi différentes affectations. Il y a un qui sera plus dans la tzidkout, un plus dans la chokhma, un plus dans le chesed. Chacun en fonction de l'endroit où il vient, il a d'autres aptitudes. Je ne me souviens plus exactement d'où vient Moshe, mais si je me souviens bien, ça a à voir avec, je crois, la jambe. La jambe droite, c'est de là-bas que vient la prophétie. Pourquoi? Je l'ignore, d'accord? Mais il y a certaines spécialités d'où certaines... Le plus grand en prophétie, c'était Moshe, parce que de l'endroit où il vient, c'est ça. Rabbi Shmuel Bar Yochai qui a dévoilé la Kabbalah, le Zohar, c'est que lui qui pouvait le faire, parce que lui venait d'un endroit où c'est ça son truc. Donc, en fonction de l'endroit où on se trouve dans le corps, ainsi, on a un job différent.
C'est quoi notre truc?
On ne sait pas ce que c'est, on fait ce qu'on a à faire, et Hachem nous guide. D'abord, tout le monde doit aller à l'école, d'accord? C'est comme, tu vas aller, quelqu'un, il rentre comment on dit en France, le CP, à 5 ans, le CP. 6 ans. On lui dit, tu veux faire maintenant... Tu veux faire maintenant une spécification médicale dans cardiologie nucléaire ou cardiologie classique? De quoi vous parlez? Je ne sais pas encore c'est quoi ABC. Non, mais c'est la même chose. D'abord, tu vas commencer à prendre l'ABC. Tant que tu ne sais pas lire une page de Gemara, pour lui, la Torah, tu es un ignorant, un analphabète. Tu sais lire une page de Gemara, tu commences à savoir parler. Tu es dans le bain, tu sais de quoi, plus ou moins, de quoi on parle. Après, on continue. Et en fonction de Hachem et de mitzvot qui se posent à nous et de notre intériorité, Hachem va nous guider par le chemin qu'on doit faire, en fonction des épreuves que nous avons. Quelqu'un fait ta souffrance.
Ça tombe sur la Gemara, en fait.
Ouais, il faut. Ouais, on ne peut pas grandir si on n'est pas connaisseur en Torah. Il faut d'abord le SMIC. C'est comme un analphabète. D'accord ? Et tout autour de ça, quoi, il ne sait pas lire. Alors, il est fichu ? Non, il n'est pas fichu, il peut aller porter des choux, d'accord ? Mais tu comprends que si on parle maintenant de pouvoir grandir et faire des choses dans le monde, quelqu'un qui ne sait pas lire, il ne va pas aller très loin. Donc ça passe par cela absolument. La grandeur en Torah, il y a un minimum de Torah nécessaire pour être appelé un alphabète.
Avraham Avinu, il n'a pas étudié la Gemara, ça n'existait pas.
Avraham Avinu, il avait une neshama tellement haute qu'avec sa réflexion lui-même, il est arrivé à connaître Hachem. C'est marqué qu'il avait 400 chapitres de traité Avodah Zara. Nous, on en a 7 ou 8. Il connaissait la Torah. Il avait une neshama tellement haute qu'elle éclairait Elle éclairait, comme une prophétie. D'ailleurs, Hachem lui parle, donc il a un contact avec des mondes supérieurs que nous, on n'a pas. Oui, Internet.
C'est pas en fonction de ce qu'on a pu faire, si on a pu se faire de la plaque du facette.
Ok, alors là, maintenant, ça rejoint la question de Yaron. Est-ce qu'on peut se sortir? Alors, d'abord, nous, on doit arriver à remplir notre potentiel. On a reçu une âme, d'accord? Cette âme-là, d'abord, on a plusieurs âmes potentielles. On a Nefesh, Ruach, Neshama, Ha'echida. Et dans Nefesh, t'as aussi Nefesh, Ruach, Narnachi, on appelle ça. Narnachi, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. T'as Narnachi de Nefesh, Narnachi de Ruach, Narnachi de Chaya, etc. Donc toi, tu reçois, quand t'es petit, t'es un tout petit Nefesh de rien du tout. Après, à l'âge de 30 ans, tu reçois. Puis chaque anniversaire, on reçoit. 20 ans, tu reçois de la Neshama. Après, on reçoit sans cesse. Maintenant, en fonction du potentiel qu'on reçoit, on doit le remplir, ce potentiel. Quelqu'un qui fait rien, ben, il recevra des potentiels très petits. Quand il va faire beaucoup plus, il recevra des potentiels beaucoup plus grands. S'il arrive, comme dit le Zohar, Zacha, Yahivlan, Yatir, il est Zohar, il reçoit un mérite, on lui donne plus, on lui donne des parties de Neshama plus grandes, il aura plus grand potentiel. Il fait plus attention à ses actions, plus attention à ses paroles, il commence à faire attention à ne pas avoir des plaisirs de ce monde-là, il travaille la Kedusha, on lui donne encore plus. Et c'est en fonction des actions, en fonction de la qualité des actions. Est-ce que tu es grossier dans tes actions ou tu commences à être fin et tu fais les choses beaucoup mieux, tu reçois beaucoup plus? Il y a un moment où on arrive, on a rempli tout ce qu'on veut remplir de nous-mêmes. Nefesh, Ruach, Neshama, Haïda, la totale. T'es très bien. Tu continues à monter, tu reçois maintenant un Ibur Neshama, c'est une autre histoire ça. Tu reçois un supplément de Neshama d'un tzaddik, pas toi, un autre. Un autre qui vient. De Olam Haba, et qui veut être associé avec toi dans les actions que tu fais, et il rentre en toi.
Ça rend pas schizophrène,
non, pas du tout. C'est des choses qu'on ne dit pas tellement, parce qu'il y a des cas de gens qui sont devenus schizophrènes en entendant cela. Ils avaient des aptitudes déjà, mais disons, on leur a dit ça, ils ont commencé à dire qu'ils sont des Yibour Neshama, ils sont allés en asile psychiatrique. Aujourd'hui, ça se répand plus, on peut parler de ces choses. Un temps, tu disais le mot réincarnation, les gens, ils étaient pris de tremblements, ils avaient peur. Aujourd'hui, ça devient plus facile à dire, je sais pas. Il y a un Baruch HaShem dans le monde devient à la fois plus idiot et à la fois plus sage. On ressent absolument rien. Ce qu'on reçoit, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'on ressent qu'on a la pêche. En tout cas, un élan comme ça, hop, ça c'est une neshama qui vient t'aider. Le tzaddik qui peut partir. Il peut partir quand tu te mets en colère, il peut revenir. Il fait des erreurs, des péchés, il ne veut pas être associé avec les péchés que tu fais, donc il te quitte à ce moment-là. Il est associé qu'avec les mitzvot que tu fais. Et il t'aide, et les deux, vous êtes, lui reçoit le mérite de la mitzvah parce qu'il t'a aidé, et toi tu reçois le mérite de la mitzvah parce que c'est aussi toi qui l'as fait. Donc ça c'est un très grand avantage qui te permet d'avoir des degrés que tu n'aurais pas pu avoir à la base. Maintenant, si je me souviens bien, on peut recevoir jusqu'à 10 neshamot supplémentaires de tzadikim. Et si on continue après à monter, alors on quitte celle de nous du début, et on reçoit maintenant une 11e. Et ça monte comme ça jusqu'à recevoir l'enshot de Moshe Rabbeinu lui-même, qui inclut en lui les 600 000 âmes d'Israël. Donc on peut monter très très haut. Pardon ? J'ignore. Allez, va, et qu'on finisse, nous, notre tikkun à nous, le petit là. Ouh, je te parle maintenant, c'est très théorique tout ça.
Ah, c'est Moshe Rabbeinu qui a inclus les 600 000
âmes. Il inclut les 600 000 âmes juives, oui.
Et il avait dit, enfin, je crois que j'avais compris que quand ils ont reçu la Torah, il y avait 600 000 âmes juives confondues, enfants, adultes, vieillards.
Ouais.
Mais alors, en fait, c'est que Moshe qui est monté avec leur âme.
Non, pas qu'il avait leur âme. Lui, il a égalité. Il a une âme qui inclut l'âme Israël. J'ignore.
Vous avez 10 personnes en
plus. Il y a.
Il y a lui en face et lui, il a un peu de chaque âme de chacun en plus que.
Non, je pense pas qu'il a un peu d'âme de chacun. Il a l'égalité. Il y a des tzadikim qui sont des sources de racines d'âme. Il y a des sortes de grappes d'âme, d'accord ? Des grappes d'âme. Et on dit qu'il y a certaines personnes qui viennent de la même grappe, la même racine d'âme. Et étant la même racine d'âme, ils ont des aptitudes qui se ressemblent. Ils font partie du même sensibilité. Oui, Avi.
Je veux dire, à 20 ans, on reçoit Neshama, mais que si on habite en Israël.
Non, alors, quand je parle de Neshama, de quoi on parle? Il y a 40 000 sortes de Neshama différentes. Tu as la Neshama du Nefesh. Tu as la grande Neshama, qui est Nefesh Ruach Neshama Chayachida. Tu as le Nefesh du Ruach. Moi, je t'ai fait maintenant une subdivision en deux. Je t'ai fait 5 et après 5. Mais c'est marqué que les subdivisions vont jusqu'à l'infini. Donc tu peux avoir Neshama du Nefesh du Ruach, de la Chaya, de la Yechida, du Nefesh, de la Yechida, de la Yechida, de la Nefesh, de la Yechida, de la Yechida, du Nefesh, de la Yechida, de la Nefesh. Alors c'est un supplément de Neshama, c'est tout. Tu reçois un supplément de Neshama. À 20 ans, on reçoit un gros supplément de Neshama. C'est pour ça que c'est marqué que le Bedin Doro ne juge pas avant l'âge de 20 ans. L'âge de 20 ans, tu reçois maintenant un éclairage tellement grand que là, tu deviens complètement responsable de tes actes, et attention.
Mais c'est pas la grosse Neshama de base.
C'est pas comment se passe la grosse Neshama de base. Si, c'est une grosse Neshama de base. À la base, on n'avait qu'un Nefesh. Jusqu'à parmi ça, on n'a qu'un Nefesh. Après, on reçoit Ruach, et à 20 ans, on reçoit Neshama. Quelle partie du Nefesh Ruach Neshama dans le grand édifice, j'ignore. Mais ce sont des parties assez importantes. De même, quand on n'habite pas, on n'a jamais venu en Israël, on n'a que Nefesh. Ni Ruach, ni Neshama. Quand on vient en Israël une fois, on reçoit Ruach. Quand on vient habiter en Israël, on reçoit Neshama. Quand on arrive en terre d'Israël, on est euphorique pendant quelques temps parce qu'on reçoit Neshama. Quand on fait Tchouva, on reçoit aussi. T'es euphorique. Pourquoi? C'est un éclairage de Neshama très très grand. Quelqu'un qui étudie pas après la prière avec les tefillines, il ne reçoit pas Nefesh Ruach Neshama. Il a que Nefesh. Il faut avoir Ruach Neshama. Pour recevoir un Ruach Neshama, il faut étudier avec les tefillines après la prière au moins un tout petit peu. D'accord? Il y a beaucoup de. Alors, tu vas avoir une partie ou une partie non. Alors, il a ou il a pas. Ce sont des Neshamot et des Ruach différents. Hod. C'est Hod. Je crois que c'est la jambe gauche. Netzar Hod. Si je me souviens bien. Hod Shebehod. Je crois que c'est Hod Shebehod. Je crois que c'est ça. Je me souviens plus très bien.
C'est pas Sod, parce que vu qu'il a fait la Kabbalah, je veux dire, c'est
Sod. Il n'y a pas Sod. Il y a 10 voies de conduite, dont une s'appelle Hod. Et je crois que lui, était Hod Shebehod. Si je me souviens bien, sûrement je me trompe.
Le Brit,
c'est pas Sod. Yesod.
Ah, Yesod, pardon.
Kovinu Setiferet. Bon, laissez-nous tranquilles. Je n'y comprends rien. Pourquoi je vous parlerai de choses que je comprends rien de toute façon. Oui.
Il dit qu'un qui est mort, il peut rentrer dans une personne qui est vivante encore ici, qui s'associe à ses actions.
Absolument.
Et normalement, quand quelqu'un mort, on dit qu'il ne peut plus rien faire comme action pour encore mériter. Vous pensez qu'il a le droit de s'associer à quelqu'un pour encore mériter du mérite vu qu'il est mort?
C'est un grand chesed qu'Hachem a fait. Vu que dans le monde, il y a beaucoup de mal. Et Hachem veut qu'on ait un libre arbitre. Donc il a mis la personne à libre-arbitre, ça veut dire que face à un choix, j'ai une pulsion presque égale de faire le bien que de faire le mal. Si ce n'est pas égal, il n'y a plus de libre-arbitre. Si tu prends une population X, 10 000 personnes, tu les mets devant des choix où ils ont une pulsion égale de faire le bien et le mal, du point de vue statistique, il sortira qu'à peu près la moitié vont faire le bien, à peu près la moitié vont faire le mal. Et vu que tu as créé un monde, donc, où le bien et le mal sont à égalité, donc, il est impossible qu'un jour, on arrive au tikkun, que le monde soit réparé. Parce que, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fera le bien, tu auras un autre qui fera le mal, dans la statistique. Alors, plus tu feras du bien, plus il y aura des gens qui vont faire le mal. On ne peut pas avancer. Comment le monde peut arriver au tikkun? Comment il peut arriver à son tikkun, à ses réparations? Il faut arriver à ce que, en fin de compte, on arrive à faire tout ce qu'il y a à faire. On ne peut pas le faire vu que c'est à égalité. La combine qu'a fait Hachem, c'est justement cette notion de Ibur Neshama, de littéralement tomber enceinte d'une Neshama. D'accord? Neshama qui vient en vous. Parce que cette Neshama de Tzadik, comme je dis, n'est pas associée dans les péchés. Donc elle, maintenant, ce qu'elle manque de mitzvot, elle peut le recevoir sans tomber dans le risque du 50-50, qui fera qu'elle a la moitié de chance de faire plus de mal que de bien.
C'est faux quand on dit que quand on meurt, on ne peut plus avoir de mérite.
C'est faux de dire que quand on meurt, on n'a plus de mérite, c'est-à-dire qu'on ne va plus en avoir de mérite tant qu'on est là-haut. Mais si une partie de la Neshama, c'est une partie, hein, rentre chez quelqu'un, oui, elle peut avancer. C'est une sorte de Gilgoul. On peut revenir dans la Mabar en Gilgoul aussi. On peut avancer en réincarnation. L'incarnation, c'est très désavantageux parce que tu repars, c'est de nouveau retour à la case départ et tous les coups sont permis. Donc, tu es quelqu'un qui est très très bien et qui avait juste un centième à réparer. Il peut revenir ici en réincarnation pour réparer ce un centième et il casse toute la baraque et il a fait 99 000 bêtises.
Si vous avez vu bien, il est où le...
Non, c'est Gilgoul. Ça, c'est réincarnation.
Ah, je crois pour les bons schémas. Si vous avez vu que du bien, pourquoi vous
Et lui, alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Mieux que le Gilgoul, il fait que maintenant l'Ibur Neshama vient et le tzaddik va aider. Le tzaddik va aider la personne à faire la mitzvah. Donc vu qu'elle a aidé, elle a à voir là-dedans.
Pour moi, vous avez dit que le tikkun était quasiment impossible parce que niveau statistique, il doit avoir 50-50.
Oui.
Pourquoi pas? Le libre arbitre, c'est une notion qui touche chaque individu.
Oui.
Pas l'homme Israël. Moi, tu veux faire ça, parce que moi, je veux faire plus de bien, que forcément, l'autre veux faire plus de mal.
C'est vrai. C'est faux de dire que je veux plus de bien, plus de mal. Mais si tu prends une population X, d'accord, et ils ont un choix à moitié-moitié, bah, tu verras que la statistique sera moitié-moitié, grosso modo. C'est évident que c'est comme ça.
C'est statistique, c'est automatique.
Non.
Alors, si c'est 50.
Tu es libre de te mettre là ou là.
Donc, il y a une chance qui est 100% de bien ou 100% de mal.
Regarde, comment t'expliquer cela? Tu prends les dés. Et tu joues avec les dés. D'accord? C'est certain que comme tu as tenu les dés et comme tu as envoyé, ça va influer. Ça va être un 6-6 ou un 1-1. Ou un 1-2. D'accord? Tu me suis?
C'est aléatoire.
Moi, je ne sais pas. J'arrive pas à gérer tous les paramètres qui vont faire que ça va sortir 6-6. Mais c'est clair que c'est la main comme j'ai tenue qui a fait que c'est sorti 6-6. C'est pas un miracle de sortir 6, ça a fait que. Mais on voit que si je vais faire 100 000 fois, je vais théoder, et ben tu verras qu'on arrivera exactement de façon proportionnelle à toutes les solutions possibles.
Mais dans ce cas, il n'y a pas de libre arbitre, parce que dans ce cas, moi, je fais quelque chose, mais le résultat est aléatoire. Alors, le libre arbitre, j'ai la force de connaître exactement, de réussir à faire. J'ai ce pouvoir de pouvoir faire.
Oui,
si.
Oui, c'est vrai. Mais vu qu'on parle maintenant d'un 50-50, que le choix, il est. Le type, il est sur la tangente. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Il a libre arbitre. Mais vu que le monde n'est pas fait que de tzadikim, et aussi des rechaim, et aussi des benonim, il s'avère, mistaber, j'ai pas dit que ce sera exactement, ça sera environ moitié-moitié. Quoi qu'il en soit, le mal reste toujours. Attends, tu revois la personne, le type, il a fait maintenant, il a fait il a fait 60% de bien, tu le renvoies en Gilgoul, il y a des chances qu'il fasse maintenant 40% de bien et 60% de mal. Enfin, il y a toujours un risque qu'on reste et il y aura toujours du mal, parce qu'il faut qu'il y ait du mal sur Terre. Le seul moyen de réparer, comme j'ai dit, que là, d'abord on est aidé, donc on a plus de chances de faire le bien. Ensuite, la personne qui est là-haut, elle nous aide sans sa capital garantie. D'accord? Capital garanti, il ne peut que gagner encore plus d'intérêt. Pour recevoir l'âme d'un tzaddik, il faut un mérite. C'est le mérite qu'on aura. On aura moins de mérite, mais on aura le mérite de l'avoir amené, qui équivaut peut-être au mérite des mitzvot qu'on fera avec lui. Oui.
Par rapport à la question de Benjamin, pourquoi il choisit Abraham, pourquoi il choisit Moshe, tout ça. Comment, je ne rentre pas dans les calculs de Dieu ou quoi, mais pourquoi des fois il va aller choisir quelqu'un comme ça au fin fond de... Enfin, au final, pourquoi il a eu une vie, il était au royaume, il a attendu qu'il sorte du royaume pour pouvoir le faire, alors qu'il avait peut-être de l'influence quand il était là-bas. Pourquoi c'est le moment, le déclic, pourquoi il a insisté avec Moshe, alors que Moshe ne voulait pas, il a dit 10 fois, je ne veux pas. Pourquoi lui, il a eu ce cadeau-là que Dieu lui propose 10 fois d'être le sauveur. Vous comprenez ce que je veux dire?
Pas tout à fait. Pourquoi il est dans le royaume? Pourquoi il est sorti du royaume? Pourquoi dix fois
Pourquoi Moshé, qui est passé par le siège de prince, et puis après il a fini
berger.
Dans le désert berger, à se marier avec une fille d'un berger, etc.
Prêtre, un prêtre idolâtre.
Pourquoi il a attendu qu'il arrive à ce stade-là pour se dévoiler? Pourquoi il s'est pas dévoilé direct quand il avait la possibilité de dégorger le beau-père et les frères, et puis voilà, on s'en va d'Égypte, c'est bon. Pourquoi il a attendu qu'il soit au plus bas? Pourquoi il a pris un bec? Pourquoi il a eu ce mérite-là d'avoir 10 fois l'occasion de dire oui ou non à Dieu? Pas une demi-fois dans notre vie l'occasion de...
T'as beaucoup de questions.
Non, c'est la même.
Je vais essayer de répondre. C'est-à-dire que Hachem, il prend beaucoup de paramètres en ligne de compte. Il prend en paramètre qu'il a besoin d'un sauveur pour Amisraël. Il prend en paramètre que le peuple d'Israël doit souffrir un certain temps pour faire un certain tikkun en terre d'Égypte. Il prend en paramètre les prières du peuple d'Israël. Il prend en paramètre que Moshe Rabbeinu, pendant 80 ans, il va se sanctifier. C'est pas du jour au lendemain qu'il va se dévoiler comme ça. Il faut que le type il dit bosse, il bosse énormément. Hachem, la première fois où Hachem parle à Moïse, il a 80 ans. C'est pas qu'il a. Il a bossé toute sa vie pour sanctifier. D'accord? Je bosse, je suis la Gemara, tout ça, je vois rien. Voilà, regarde, 80 ans, il a bossé. D'accord? Et Yaakov Avinu, 63.
Il disait non, je suis pas prêt, mais il voulait.
Alors, jusqu'à 80 ans, il n'a jamais parlé, Hachem, à Moshe Rabbeinu. À 80 ans, il y a l'épisode du buisson ardent. À ce moment-là, il dit je veux pas y aller. Alors, pourquoi. Là, je t'ai répondu. Maintenant, pourquoi il l'a demandé plusieurs fois? Moshe avait des bonnes raisons. Il savait que c'était pas. Il était prophète. Il voyait Ruach HaKodesh. Il voyait que la Géoula serait pas totale. Il voulait pas être responsable de cela. Oui. D'autres raisons. Il voyait que son frère était aîné, etc. Il voulait pas prendre sa place. Beaucoup de choses. Et, excuse-moi. Et tout est vrai. Parce qu'Hachem prend tous les paramètres à la fois qui font que.
J'ai la question, on ne parle pas des tzadikim, on parle même des gens qui soutiennent le monde.
Oui.
Pourquoi Hachem, il devait justement donner l'opportunité à des personnes qui sont loin de la Torah, enfin, je sais pas, alors que d'autres ont peut-être plus de mérite. Et on voit même que des gens qui méritent l'argent n'ont rien à faire à l'Yeshiva qui viennent.
Normalement, personne ne vient à l'Yeshiva sans avoir un mérite. Hachem, il est juste. C'est ma première réponse, j'aurai une deuxième. La première réponse, Hachem, il est juste. Et il n'y a rien qui est gratuit. Donc pour mériter de venir à l'Yeshiva, pour mériter de faire tchouva, il faut un mérite. Quel mérite il peut y avoir? 3 types de mérites. Le mérite des ancêtres. Quand je dis que c'est 3, c'est 1 des 3, ou 2 des 3, ou les 3. Mérite des ancêtres. Mitzvah que ce type-là a fait quand il était plus jeune. Et la lumière de cette mitzvah fait que maintenant, elle tire jusqu'à l'Yeshiva. Et souffrance. Souffrance, en soi, souffrance est un très grand mérite aussi.
Oui, des fois, on voit des gens de mettre en question. Des fois, c'est devenu un chat, c'est pas forcément positif. Des fois, ils ont un travail à faire avant de venir à l'Yeshiva. Pour le personnel, qu'ils devraient faire. Et s'ils viennent à l'Yeshiva, comme ça, des fois, ça peut empirer dans la situation.
C'est rare. C'est rare.
C'est quand même des cas comme ça.
Ok, ça arrive. Ça arrive des fois que. Des fois, quelqu'un il a un mérite de faire tchouva, mais aussi il a beaucoup de choses qui empêchent. Hachem ne veut pas. Et les gens qui m'ont écrit, voilà, chaque fois qu'il commence à faire tchouva, il y a toutes les embûches du monde qui lui tombent dessus. Par contre, une fois, il y a quelqu'un qui est venu au séminaire, ils ont travaillé, il voulait pas, enfin, il a accepté de venir au séminaire. Il a fait 2 crevaisons pour arriver au séminaire. Ben, il est reparti à la maison. D'accord. Et du ciel, on l'empêche. Des fois, tu as des avérotes qu'il a fait, qu'on ne veut pas qu'il fasse tchouva. Ménaché. Le roi Ménaché. C'est marqué dans le Zohar que c'est lui, dans l'Olam Haba, le monde à venir, il y a des palais. Puis il y a un palais, des palais de Tchouva. Hachem, j'espère qu'on pourra se rencontrer là-bas. Et il y a un roi à chaque palais, un dirigeant de chaque palais. Le dirigeant du palais des palais de Tchouva, c'est Ménaché. Ménaché, c'était le fils de Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, c'est un des rois tzadikim qu'a eu le peuple d'Israël. C'était presque l'égal de Moshe Rabbeinu. Il avait 2 enfants, qui étaient des enfants terribles. Il ne voulait pas d'enfants au début. Lui avait roi Hakodesh. Je voyais que ses enfants seraient des tordus. Alors il ne s'est pas marié. Il est venu le prophète Yeshayahu. Il lui a dit fais ton testament. Je t'ai envoyé par Hachem pour te dire fais ton testament car tu ne vivras pas. Car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Tu vas mourir dans l'Olam Hazeh, tu ne vivras pas dans l'Olam Haba. C'est-à-dire, chlet, plus rien. Il lui dit ok, j'ai entendu, rentre chez toi. Moi, j'ai une Kabbalah, une tradition de mes parents. C'est David Amelher, que même si une épée aiguisée se trouve sous notre nuque, ne pas se désespérer de la miséricorde divine. Yeshayahu sort, Hizkiyahu se tourne vers le mur et prie Hachem. Je fais tchouva, arrange-moi ma vie. Hachem appelle Yeshayahu dans l'escalier. Yeshayahu, le prophète, rentre, va lui dire que je rajoute 15 ans de vie. Il dit, ok, t'as encore 15 ans, tu m'as bien eu. Et pourquoi je vais mourir? Parce que tu t'es pas marié. Je voulais pas d'enfant. C'est un péché. Péché grave, pas avoir d'enfant. De façon volontaire. Pourquoi tu voulais pas d'enfant? J'ai vu Baruch HaKodesh qui serait des Rechaim. Il lui répond le prophète, Bekav Shel Rachmana Lamalach. Dans les histoires cachées d'Hachem, qu'est-ce que tu mets ton nez là-bas? C'est l'histoire d'Hachem. Toi, tu vas faire ton boulot. Hachem t'a dit, amène les enfants. Et Chaskaou, le roi, il dit, ok, j'accepte, mais j'ai une condition. Tu me donnes ta fille, je me marie avec ta fille. Comme ça, ton mérite et le mien, peut-être que les deux, peut-être on pourra faire que le décret d'avoir de mauvais enfants va être annulé. Et il y a eu deux beaux petits-enfants, Rav Shaké et Menaché. Et comme un bon papa, il prenait au cheder Talmud Torah sur les épaules le matin comme ça. Il entend les deux parler. Rav Shaké qui dit à Menaché, t'as vu la nuque du papa, comme elle est grasse comme ça? Ça serait un beau sacrifice comme ça pour l'idole, hein, comme ça on l'égorge comme ça devant l'idole. Il a entendu ça, le roi Hizkiyahu, il a pris les deux, il les a jetés par terre. Rav Shaké est mort sur le coup, et Menaché a été blessé, amené à l'hôpital, ils l'ont soigné, il a guéri. Et Menaché est devenu le roi d'Israël. Il était un roi, il n'y a pas eu pire que lui. La Gestapo antireligieuse. Gestapo antireligieuse. Partout à Avodah Zara, celui qui osait une mitzvah était terrible, le KGB. Le KGB, et un beau jour vient le roi de Babylonie, conquiert la ville de Jérusalem, et le prend lui en prison, l'amène là-bas dans ses prisons, et commence à le torturer. Il met dans une casserole, il met le feu dessous. Il commence à chauffer, sur les pieds comme ça, aïe 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 aïe. Bon, il commence à appeler toutes les idoles qu'il connaît. Baal, réponds-moi, rien du tout. Allez, Moloch, réponds-moi, rien du tout. Allez, Osiris, réponds-moi, rien du tout. Apollon, ça n'existe pas à l'époque, rien du tout. À la fin, il s'est dit, allez, Hachem, comme j'étais au Talmud Torah, on parlait de Hachem, moi, je n'y crois pas, ce truc-là. Bon, je tente le coup. Si ça marche, alors, ok, mais si ça ne marche pas, ça vaut vraiment que ça vaut rien. Hachem, sauve-moi. La prière a commencé à monter. C'est marqué que les anges, c'est quoi les anges? Tous les péchés qu'il a fait, les anges maléfiques qu'il a créés, ont mis des écrans pour qu'elle ne monte pas sa prière. Des millions d'écrans. Hachem, comment il fait avec les balais de Tchouva? Il a creusé un tunnel avec sa droite, sa miséricorde, pour prendre la prière de Menaché et l'accepter. Menaché se retrouve maintenant à Jérusalem, dans son palais. Il se voit ici, il dit, oh là là, quel cauchemar j'ai fait. J'ai rêvé qu'il y avait le roi de Babylone qui est venu, il nous a pris, il a torturé, quel... Où il voit tout à coup sur ses jambes-là, il voit les blessures, il voit tous les pieds brûlés. Il a compris que ce n'était pas un rêve. Il a fait tchouva. Super grande tchouva est devenu le dirigeant du palais des Baal Tchouva dans l'Amaba. Pourquoi je parle de ça?
Parce que vous avez dit on se retrouvera là-bas.
Non mais avant, pourquoi je parle de Menaché?
Tu vois des fois, les embûches ne font pas de blessures.
Oh, voilà. Donc là, exactement, les anges, tous les péchés qu'il a fait n'ont pas voulu. Alors Hachem, il avait un calcul spécial qu'il a... Mais c'est très très dur, là, tu vois, c'est un miracle, comment quelqu'un du fin fond de sa touma, il revient, c'est un miracle, comprenez que nous, on est habitués, parce qu'Hachem fait le miracle tous les jours, mais c'est impensable.
Il y a écrit, si on ouvre le trou du midi, on ouvre Hachem, il continuera à ouvrir, c'est un effort, hein. Enfin, le pas vers l'avant, Hachem.
Ouais, mais c'est marqué aussi, dans le début des Jaret Chouva de Rabbi Yonah, que Hachem va aider le Baal Tchouva de façon surnaturelle. Que naturellement, on ne peut pas se sortir du carcan d'où on est. Et tous ceux qui ont fait tchouva, qui sont venus de loin, te le diront, c'est anormal. Dedans, oui, tout se réveille. Alors, comme j'ai commencé à dire non habitué, donc on ne s'en rend plus compte, c'est comme les miracles quotidiens qu'on voit tous les jours. Pour nous, ça devient normal. Mais il y a 50 ans, on connaissait un bal tchouva. Ça n'existait pas, c'est complètement anormal. Oui, donc j'ai répondu aux questions,
Il y a un point que je ne comprends pas, c'est que vous dites que, les gens qui viennent de la Tchouba, hein, c'est souvent dû à un mérite. Peut-être des souffrances ou des mérites de leurs propres actions.
Ou des ancêtres. Et des ancêtres, oui.
Un point que je ne comprends pas, c'est parce qu'Ori, moi je pensais que quelqu'un pouvait donner l'opportunité à tous les juifs de la Tchouba. Hein. Et ce que je ne comprends pas, c'est le mérite. S'il est créé grâce aux souffrances comme une personne, finalement, ce n'est pas pour le fruit de son travail à lui. Donc,
où est le rôle du libre arbitre là-dedans?
Les souffrances aussi, c'est un mérite. Comme on a expliqué dans un cours dernièrement, quand Hachem n'aime pas quelqu'un, il le laisse dans la belle vie, pépère, jusqu'à sa mort. Quand Hachem aime quelqu'un, il le fait souffrir. Cette personne devait avoir un certain mérite, mais insuffisant pour le ramener à la Torah, il fallait qu'il ait une participation active de lui aussi. Maintenant, lui n'a pas la capacité de faire son libre choix, parce qu'il est trop dans le monde du mal, mais il a un certain mérite qui fait que Hachem va lui donner des points. Malgré lui, ce qu'il aurait dû faire comme effort qu'il n'a pas fait parce qu'il n'est pas capable de les faire, on lui fait faire les efforts. Et effort égale souffrance. Effort, c'est de la souffrance. C'est une petite souffrance. Et quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, ça devient une grosse souffrance. Alors en fait, on lui fait faire la souffrance de façon artificielle. Et c'est un mérite quelque part. Parce que grâce à cette souffrance-là, il a un mérite qui permettra que demain, il fasse Tchouba.
Mais on n'a pas à intervenir dans ce monde-là.
Pardon ?
C'est les calculs d'Hachem. On n'a pas à intervenir si on voit quelqu'un dans ce monde-là complètement. On sent que.
Le faire souffrir ?
Non, pas souffrir, non. Mais réveiller, on va dire.
Réveiller, oui, bien sûr qu'on doit réveiller les gens. Mais pas réveiller avec une claque, avec une caresse. Il y a une mitzvah de tochecha, il y a une mitzvah dans la Torah de ocher tocher et amitecha, d'aller corriger notre prochain pour le ramener vers la bonne voie. Donc, il faut le corriger.
C'est quoi le guédère? C'est quoi
non, il y a des lois très claires là-dessus. À ce propos, il faut regarder dans Siman Terach 608 du Shulchan Aruch Haim, là-bas, toutes les lois de tochecha. À qui, jusqu'à combien? Quelqu'un qui est quelqu'un qu'on sait qui ne fera pas de chouva, quelqu'un qui, oui, il y a des chances, quelqu'un qui est messie, quelqu'un qui est shogeg. Il faut qu'on soit bien aussi, bien sûr.
Tu dis que le Tinoch ne dit pas qu'il a, qui vraiment, il a eu des mérites malgré lui, à l'opportunité de la chouva, pourquoi pas tous les autres?
Mais il y avait un mérite aussi. On parle maintenant, toute la notion de réincarnation. On vient ici, ce n'est pas la première fois, il y a des mérites de fois dernière.
Il n'y a pas de mérite pour pas venir à la chouva.
De quel droit? Quelqu'un qui n'a pas un mérite, il viendrait maintenant à un endroit qui permet en deux temps, trois mouvements d'éliminer son etc. et d'avoir le Olam Haba. Pardon?
Ça, c'est le Tchouba. Le Tchouba, c'est donner la possibilité à une personne.
Chaque personne a la possibilité. Chaque personne qui est dans le monde a la possibilité, en réfléchissant un tout petit peu au comment et pourquoi du monde, quelqu'un qui cherche la vérité, il trouve. Hachem va l'aider. Quelqu'un, ça l'intéresse pas, la vérité.
Justement, ça, la question. Venir à Yeshiva, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. On a dit que celui qui a du mérite viendra à chercher la vérité. Celui qui n'a pas de mérite ne viendra pas à chercher la vérité.
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quelqu'un se trouve dans la cambrousse. Et il se dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'existe? Quel sens de ma vie? On vit un jour, on meurt. Si je suis là comme un animal pour manger, boire, faire des enfants et m'amuser, ok. Mais des fois, il se pose une question. Et chaque être humain au monde se pose la question au moins une fois dans sa vie. Parce qu'il a une conscience. Il a une conscience de lui-même. L'animal, il vit. J'ai une conscience que je vis. Alors pourquoi je vis? Qui suis-je? Chaque être humain a ça au moins une fois. Dès lors, il a un choix. Est-ce qu'il est un menteur? Il dit, ça ne m'intéresse pas, parce que tant qu'à faire, kiffons. Ou bien il dit, non, comment je peux continuer à kiffer sans que je connaisse maintenant le vrai but de moi-même? Et c'est ce choix-là qui est difficile. Et s'il va aller dans la voie du vrai choix, c'est-à-dire de choisir la recherche du pourquoi de sa vérité, le pourquoi de soi-même. Et s'il est authentique, il arrivera sans aucun doute. Il sera aidé par Hachem.
Vous avez dit qu'il est bloqué, par exemple.
Attends, excusez-moi, parce qu'ils appellent toujours là-bas et je réponds jamais. Oui.
Pour revenir au Nishamot, vous avez dit tout à l'heure, le niveau Nishama, c'est après plusieurs niveaux de Nishama.
Pas forcément. C'est vrai, j'ai dit après plusieurs niveaux, à un moment on arrive, alors là il y a d'autres Neshamot qui viennent, mais aussi quelqu'un qui est en bas niveau, pour ça tout un Ibur Neshama, au niveau où il est, pour avancer. Mm-hmm. Ça se peut que quelqu'un qui fait Tchouva, je suis convaincu que beaucoup de Baal Tchouva, ils ont des Ibur Neshama. Comment un type, il est au fin fond de la cambrousse et il revient. D'accord. Et c'est vrai qu'il est aidé par des forces colossales.
Vous avez dit, oui. Et Shabbat, comme on dit, Shabbat,
on reçoit des suppléments de Nefesh Ruach Neshama le vendredi soir et le samedi. Le vendredi soir, quand on fait Boykala, troisième fois Boykala Shabbat Melketa, à voix basse, on reçoit Tosefet supplément de Nefesh. Quand on dit Baruch Hashem Vohar Lam Vaet, c'est la seule fois où on le fait debout, on fait le Kaddish de Arvit debout, on reçoit un supplément de Ruach. Quand on dit Baruch Hashem Vohar Lam Vaet, on reçoit le Ruach. Et c'est bien de penser Baruch Nefesh, Hashem Ruach, Hamborach Neshama, Lolam Haya, Vaed, Yachida. Quand on dit Ufros Alenu, on se met debout, on reçoit un supplément de Neshama du Shabbat. le matin, quand on dit Nishmat Kol Chai, il faut penser qu'on soit supplément de Nefesh. Plus de détails, ce qu'il faut penser quand on dit ces deux mots, regardez dans le Ben Ishraï. Quand on dit Hashem Sotat Iftar, ou de Shachrit, ou de Moussaf, on soit supplément de Ruach. Quand on dit Aïe, longtemps, pas comme le font les autres communautés, et marocaines, et Ashkenaz, mais chez les bons soirs de la région, ils disent Aïe, longtemps, pour qu'on on ait le temps de penser cela, il faut penser qu'on soit le supplément de Neshama de Shabbat. Oui, Aaron.
Ouais, vous avez dit, par exemple, celui qui a eu deux crevaisons avant d'aller dans un séminaire, on lui a empêché la tchouva. Mais ce qu'il a dit, c'est que la tchouva, on ne peut pas l'empêcher. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut faire. Comment on peut.
C'est la... On le met en situation de. On le met en situation de libre choix. Maintenant, d'un côté, il mérite, parce qu'on l'a appelé sans cesse viens, viens, viens. D'un côté, il y a Averroth qui a fait qu'il dit il ne mérite pas. Alors, je veux le mettre dans une situation de choix plus difficile. Il a le choix, avec trois, moi, deux crevaisons, j'irai, même avec quatre crevaisons, j'irai. Et il arrive. Il y a un type qui a fait le séminaire, il a essayé de prendre sur lui Shabbat. Il avait un restaurant. Et il ferme Shabbat. Et ça a commencé à descendre. Il y a une vidéo sur le blog de Yavad. Ça descend, les prix descendent. Presque la faillite totale. Il est allé dans sa cave, il s'est enfermé. Il a pris les clés de sa HM. Tu veux que je ferme Shabbat? Tu veux que j'ouvre Shabbat? Eh bien, je n'ouvrirai pas Shabbat. Il a jeté les clés par terre. Dès ce jour-là, tac, ça commence à remonter. Voilà. Il y a des épreuves. Il aurait pu dire, c'est comme ça. Eh bien, j'ouvre Shabbat de nouveau. Bah, ou Hadonai, mais...